des livres plein les oreilles. Bonjour à vous toutes et vous tous, ravis de vous retrouver une nouvelle fois cette semaine pour parler avec vous de bouquins audio adaptés pour que puis justement vous puissiez en avoir plein les oreilles de ces belles histoires dont il sera question aujourd'hui. Alors je vais m'entretenir pour vous avec Gérald Cousineau, notre chroniqueur non-voyant qui revient à l'occasion assez régulièrement. Je vais accueillir Rita Ezrati qui est bénévole depuis déjà pas mal d'années maintenant, qui est une artiste dans l'âme aussi, on va en parler un petit peu ensemble, et qui viendra nous parler d'un super polar. Et puis, aujourd'hui, je suis un petit peu énervée, je suis un petit peu émue, puis j'ai un petit peu peur, disons-le, parce que je vais m'entretenir avec Serge Bouchard. Oui, Serge Bouchard, l'anthropologue, animateur à Radio-Canada, et c'est quelqu'un qui m'impressionne beaucoup et dont le livre « Les yeux tristes de mon camion » ne m'a vraiment pas laissée indifférente. Je respire. Tout ça à l'émission des livres plein les oreilles pour vous. Alors on va commencer tout de suite avec l'ami Gérald Cousineau. Bonjour Gérald.
Bonjour Clotilde.
J'y vais dans les belles voies, hein. En première partie, Gérald Cousineau, Serge Bouchard.
Vous êtes gâtée aujourd'hui.
Je suis gâtée, hein. Mais je suis gâtée à chaque semaine, remarquez. Mais vous devez comprendre que je puisse avoir une petite émotion en parlant à ce grand bonhomme qui est Serge Bouchard,
oui,
non?
Je l'aime beaucoup aussi. J'ai bien hâte de lire ou d'écouter, oui, son dernier livre.
Oh, c'est vraiment, mais vraiment fantastique. Pour l'instant, Gérald, j'aimerais que vous nous parliez d'un collectif, d'un livre écrit par plusieurs écrivains et réuni par Claire Bergeron. Présentez-nous-le.
Alors, si vous insistez, d'accord, je vais vous parler de ce recueil. Alors, c'est Claire Bergeron qui a eu l'idée de ce livre. Elle a contacté 13 écrivains qui ont tous dit oui. Alors, ça s'appelle « Aimer encore et toujours ». J'avoue tout de suite, Clotilde, que le titre m'a fait un peu peur.
Ah oui?
Je me disais, oh, est-ce qu'on est dans le fleur bleue, la sensiblerie? Eh bien, pas du tout. Alors donc, ce recueil, « Aimer encore et toujours », que j'ai trouvé au Service québécois du livre adapté, apparu en 2016. Ça fait quand même 276 pages, 7 heures d'écoute. Et je le dis tout de suite, c'est très bien lu par la lectrice Joanne Arcand.
Oui.
Alors là, nous avons bien sûr 14 auteurs, dont certains sont quand même connus. Je pense à Jean-Pierre Beauchemin. Qu'est-ce que je raconte?
Jean-François Beauchemin.
Normand de Bellefeuille, Sophie Bérubé, Lucie Paget d'Afrique du Sud. Et oui, Lucie Paget est là. Louise Portal, Francine Ruel, etc. Il y en a qui sont moins connus comme Cynthia Sardou ou Ginette Durand-Brault. J'avoue que je ne les connaissais pas. Donc, ces gens-là ont tous accepté de parler de ce thème-là. Eh bien, c'est l'amour, évidemment.
Oui.
Alors, vous savez que dans tout recueil de nouvelles, il y a des nouvelles qui vont nous toucher davantage. D'autres, je ne dirais pas qu'elles nous laissent indifférents, mais on passe peut-être un peu plus vite.
Oui, je comprends.
Alors, je vais m'attarder à celles qui m'ont touché. Je pense, par exemple, à celle de Micheline Doff, qui dit « Après tout, pourquoi pas ?» Eh bien là, nous sommes dans une résidence de personnes âgées. Ça revient à quelques reprises dans le recueil. Oui. Et là, vous avez une dame qui s'appelle Marguerite, 82 ans, qui arrive dans sa résidence, dans cette résidence après avoir vendu sa maison. Les premiers mois sont difficiles. Elle s'emmerde un petit peu, il faut bien dire. Mais là, elle rencontre un certain Laurent, un jeune homme de 84 ans, avec qui elle a des affinités. Alors, ils vont tomber en amour l'un avec l'autre. Évidemment, ils vivent dans des chambres, donc c'est difficile de partager une chambre. Donc, ils vont s'arranger pour que la dame ait sa chambre sur le même étage que que Laurent.
Okay.
Donc, mais évidemment, ils sont vieux, donc un jour vient, bon, c'est la fin, mais c'est quand même une belle histoire, et j'en parle tout de suite parce que c'est un thème qui va revenir dans le recueil, l'idée que, évidemment, peu importe l'âge, que vous ayez 35, 75 ou 85 ans, ça peut vous arriver.
Bon. Eh oui.
Alors, Jean-François Beauchemin, lui, il va camper, il va nous présenter un monsieur, 75 ans, qui vient de subir une transplantation cardiaque. Bon. Mmh. Et là, curieusement, ça va relancer sa vie amoureuse et sexuelle avec sa femme. Mais c'est un peu comique malgré tout, parce que le monsieur, il perd la vue, sa femme est sourde. Alors, ils vont aménager dans une résidence et là, les pensionnaires vont les aider parce que l'un ne voit pas et l'autre n'entend pas. Alors, ça fait un drôle de couple. Mais ce qui est touchant, c'est que ces deux-là, qui sont mariés depuis des lustres, ils vont se marier une deuxième fois à la résidence même. Et là, j'ai oublié de dire qu'après chaque nouvelle, il y a un court résumé de la vie, de l'œuvre de l'auteur. Donc, la nouvelle de Beauchemin, là, on fait dire à Beauchemin, peut-être existe-t-il des gens capables, par leur seule présence magnétique, de vous apprendre en un éclair le délicat métier du bonheur. Et ça, cette phrase-là, je trouve qu'elle colle très bien au recueil, mais elle m'a fait penser à un auteur italien que vous avez peut-être lu dans votre jeunesse, Cesare Pavese. Il avait écrit « Le métier de vivre ». Alors, j'ai fait un rapprochement. Métier de vivre, délicat métier du bonheur. Vivre n'est pas facile, mais être heureux non plus. Non. C'est délicat. Et dans le recueil, les personnages vont tantôt conquérir le bonheur, tantôt le perdre, mais ils ne vont pas lâcher. Ils vont toujours repartir à la conquête de l'amour. Parce qu'on parle ici aussi de seconde noce pour quelques personnages.
Bon, voilà. D'ailleurs, j'ai un petit extrait. Ça s'appelle la bobine d'Aznavour, je crois, le texte de Jean-François Beauchemin. Alors, il y a un tout petit extrait qui dit « Nous vieillissions comme d'habitude ». Déjà ça, j'aime ça, nous vieillissions comme d'habitude. Le corps continuait de faire son exercice de fruits mûrs, mais sauf imprévu, ça ne nous empêchait nullement d'être jeunes. Ça veut tout dire.
Fantastique.
Oui, j'adore. Et
dans une autre nouvelle, vous avez Madeleine, qui a 72 ans, qui vient de perdre son mari. Et là, elle fait tout pour retrouver un homme qu'elle a aimé dans sa jeunesse, c'est Frédéric. Un ancien militaire, eh bien, elle va le retrouver et elle va louer un appartement juste en face de la maison de Frédéric qui, lui, vit au bord de la rivière des Prairies. Mais ils ne se parleront jamais. Elle va l'observer et après la mort de Laurent, survenue tragiquement une nuit, elle va apprendre de la fille de Frédéric que Frédéric savait que Madeleine vivait en face de chez lui, mais il n'a pas voulu renouer contact parce qu'il ne voulait pas qu'elle se passe une idée différente du Frédéric qu'il avait été dans sa jeunesse. Alors ça, c'est beau aussi.
Oui, c'est magnifique.
Alors, non seulement elle va lire une lettre, une sorte de lettre testament de Frédéric, mais il va lui léguer sa maison au bord de l'eau. Je pense à une nouvelle qui clôt le recueil, qui pour moi est peut-être la plus touchante. C'est Francine Ruelle.
Oui.
Ça s'appelle Madame Paquette, Madame Tremblay. Alors, vous avez deux dames qui se lient d'habitude dans une résidence. Au départ, tout les sépare. Madame Tremblay fait un peu snob, très bien habillée, maquillée, tout ça. Mais non, elles vont se lier d'amitié dans leurs activités, entre autres dans la piscine. Et là, elles vont vivre un amour. Elles vont vivre une relation amoureuse. Et ce qui est drôle, c'est quand Madame Paquette apprend à ses filles absolument déconcertées qu'il est amoureuse. Alors, l'une des filles demande « Comment s'appelle-t-il ?»
Mais oui.
Ah, non, c'est une L. Et là, surprise totale, bien oui, maman est amoureuse d'une femme. Et elle dit « Je m'offre ce bonheur avant qu'il ne soit trop tard. » Mais moi, ça m'a plu que le recueil se termine comme ça. C'est comme une ouverture, finalement. Aujourd'hui, on sait, il y a toutes sortes de couples. Et d'ailleurs, dans les notes qui suivent la nouvelle, Francine Ruelle, on lui fait dire « Et s'il n'existait pas que le tricot pour habiter nos vies, une fois que nous aurons 70 ans. je pense que ça termine fort bien ce recueil. Donc, vous avez différents personnages qui vont partir, vraiment qui vont repartir à la conquête de l'amour. Et ça va être parfois difficile, mais par les moments parfois très courts qu'ils vont vivre, pour eux et pour nous, lecteurs, valent vraiment la peine d'avoir été vécus.
Formidable, Gérald. J'ai pour finir encore une petite citation, justement extraite de Madame Paquette, Madame Tremblay, écrite par Francine Ruelle. Cela dit, Jeannette se rappela que l'auteur Marguerite Yourcenar disait que tous les matins à son réveil, elle avait 5 ans. C'était peut-être ça, le secret de la jeunesse.
Oui, c'est
j'adore.
Bien, hein?
J'adore.
D'ailleurs, vous avez dit Jeannette Paquette. Le personnage trouve que c'est affreux comme nom. Alors Madame Tremblay va l'appeler Jeanne.
Ah, ben oui. C'est charmant. Je voudrais que nous rappelions le titre de ce livre.
C'est le recueil dirigé par Claire Bergeron qui s'appelle Aimer encore et toujours. C'est souvent touchant. Mais c'est parfois drôle aussi, carrément drôle.
Oui, oui. Eh bien, merci beaucoup. Quel bon choix. de nous avoir parlé d'amour comme ça. Ça fait toujours du bien, ça fait toujours plaisir,
oui,
surtout quand c'est bien fait.
Et ça nous ravigote, hein. On se sent vraiment dynamisé par ces lectures et ces personnages, évidemment.
Eh bien, je suis dynamisé juste avant d'aller parler à M. Serge Bouchard et je vous en remercie, mon ami Gérald. À bientôt.
Au plaisir.
Bonne journée. Voilà, alors c'est le moment que je vous avais annoncé depuis le début de l'émission, en vous disant que oui, c'était pour moi un grand moment de joie, mais d'émotion aussi. La joie et l'émotion de pouvoir m'entretenir avec Serge Bouchard. Bonjour, Monsieur Bouchard.
Bonjour.
Est-ce que je peux vous appeler Serge?
Oui.
Enfin, ça me fait tellement plaisir. Alors, appelez-moi Clotilde.
Oui.
Serge, vous faites partie, vous savez, rarement depuis 4 ou 5 ans, depuis que je fais cette émission-là, je n'ai pas su, je me disais par où je vais commencer. C'est vrai. Alors, je vais commencer par une question toute simple. C'est d'abord, comment allez-vous?
Bon, moi, ça va très très bien, même si avec mon dernier livre, il y a des gens qui pensaient que j'étais bien triste et bien déprimé.
Oui, ce dont nous allons parler.
Au contraire.
Bon, au contraire.
Non, ça va très bien. Je suis très très créatif, très actif et bien dans là où j'en suis rendu dans mon temps de vie.
Serge Bouchard, du coup, vous savez, quand on ne sait pas par où commencer, je me dis souvent, allons voir par la fin. Et lorsque j'ai refermé votre livre, Les yeux tristes de mon camion, hein, qui ont fait penser à beaucoup d'entre nous que vous étiez très nostalgique, il y a cette phrase, ce n'est pas au monde de définir la poésie, c'est la poésie qui définit le monde.
Oui, oui. C'est un grand appel, c'est un appel à la beauté.
Oui.
C'est un cri du cœur. C'est ce qui, quand je regarde en rétrospective 70 ans de vie, je me dis que ce qui aura gouverné ma vie, somme toute, c'est la justice et la beauté. Et tout ça devrait réparer le monde. Et effectivement, si on avait une vision poétique, plus poétique du monde et plus normalement poétique du monde, à peu près tout le monde, et là j'inclus tout le monde, s'en trouverait mieux, et dans la santé physique et dans la santé mentale.
Mentale.
Ouais.
Et puis, vous savez, justement, pendant que vous me parlez, là, j'avais en mémoire, j'allais dire, comme si j'avais vu cette photo-là, alors que ce n'est pas en mémoire, je l'ai lu dans le livre, mais l'épisode du petit chardonneret jaune, écrapouti sur le devant du gros Mac, du gros camion.
Oui, oui.
Mais quelle image et quelle leçon, hein, parce que je voudrais juste rappeler ça pour les gens qui nous écoutent, pour les auditeurs. Nous sommes sur un bateau, nous sommes entre Sainte-Catherine et Tadoussac.
Tout à fait, le traversier, oui.
Voilà, vous êtes sur le traversier et vous êtes à côté de cet énorme camion et on sait l'amour que vous vouez au camion et aux camionneurs. Et vous remarquez qu'il y a ce petit chardonneret jaune qui est évidemment mort, il s'est fait attraper, hein, par ce camion-là.
Oui, il a fait un face-à-face avec le camion, mais ça vous dit tout.
Ça
vous dit que tout est intéressant dans la vie. Vous pouvez traverser à Tadoussac 1000 fois sans regarder rien, sans regarder ce qu'il y a autour de vous. Moi, j'avais remarqué ce gros camion rouge, évidemment, c'est un camion Mack, mais alors c'est évident que ça va retenir mon attention, mais ça a retenu l'attention. Le fait que je regardais le camionneur s'en est aperçu, il est venu jaser avec moi, on s'est placé devant le camion, et là, j'ai vu ce petit chardonneret, on en a parlé, ça faisait une grande métaphore de la vie.
Oui.
Tout est intéressant dans la vie.
Mais c'est d'ailleurs pour ça que j'avais cette image-là depuis le début, lorsque vous parlez de la poésie, lorsque vous parlez... Et très honnêtement, Serge Bouchard, je voudrais vous remercier et vous féliciter parce que jamais de ma vie, je n'aurais pu imaginer regarder les camions autrement que comme des gros engins qui font peur quand ils me doublent par la partant de pluie.
Oui, bien sûr.
Mais c'est vrai.
Mais c'est vrai aussi que ça reste quand même des mastodontes. Et puis c'est facile de faire l'association avec le grand monde. Toutes nos peurs se retrouvent dans cette masse qui bouge, qui gronde et qui soulève de la pluie, qui soulève de la neige. C'est vrai qu'ils peuvent être très épeurants. Mais en même temps, vous pouvez aller dans le sens inverse et les voir comme voir la beauté du camion, mais voir aussi toute la mobilité, toute la liberté, tout ce qui se cache derrière tout ça. Et effectivement, on peut aller très très loin avec la métaphore du camion. Mais moi, je l'ai fait, évidemment, j'avais fait, ça fait des années, c'est une partie de ma vie.
Mais oui, absolument.
J'avais fait ma thèse de doctorat là-dessus. J'explique d'ailleurs dans plusieurs de mes textes d'où vient cet intérêt, cette passion, ou en tout cas cet intérêt. Et avouer que quand on n'arrête pas de dire que rouler sur nos grandes autoroutes, c'est bien ennuyant, puis c'est bien plate, puis les paysages sont tristes à mourir, etc. Mais si vous pouvez faire ces mêmes routes, puis si vous vous intéressez aux camions, mais déjà, ça vous fait...
Oui.
Ça vous fait un beau relief.
Mais oui, absolument, absolument. Puis en plus, je ne peux plus m'empêcher maintenant de leur regarder les phares, autrement dit leurs yeux, puis de me dire, lui, est-ce qu'il a l'air triste ou est-ce qu'il a l'air heureux? Et ça, c'est de votre faute, ou c'est grâce à vous, devrais-je dire.
Oui, ils ont effectivement des visages.
Oui. Ouais, alors, on vous suit, Serge Bouchard, tout au long de ce livre, les yeux tristes de mon camion. Évidemment, je précise que ce n'est pas le seul que nous avons au SQLA. Si vous voulez découvrir l'univers de Serge Bouchard, ils ont tous été enregistrés. Alors, mais comme celui-ci est le plus récent, c'est de celui-ci dont nous allons plus parler. Alors, on vous découvre jeune en habit de footballeur. On vous découvre en spectateur attentif de baseball, évidemment. On ne vous découvre pas, mais on vous retrouve en anthropologue passionné par l'histoire, la Terre, par les Premières Nations. Et puis, il y a ces épisodes merveilleux, comme par exemple, on monte avec vous dans la coccinelle, la voiture.
Oui,
et
oui.
Alors que je vous cite, vous dites « Je gravais ma solitude dans l'asphalte ».
Ah oui.
C'est magnifique. Ouais. Vous avez fait des millions de kilomètres. Hein?
Oui, j'ai déjà essayé de le calculer. Mais dans mon cas, oui, comme un routier d'ailleurs, comme un routier professionnel, ça se calcule en millions de kilomètres. Et avec grande fierté, je peux dire, en plusieurs traversées de l'Amérique, par la route, dans tous les sens, au fond.
Oui, c'est ça.
Et la Californie, et la Colombie-Britannique, et le Yukon, et l'Alaska, et tout ça. Et puis, effectivement, c'est une sorte de reconnaissance. J'ai reconnu très jeune qu'il y avait dans cette routine et dans cette route une vérité, une profondeur qui me convenait tout à fait. Convenait à ma recherche de liberté, ma recherche de solitude, mais surtout ma recherche de méditation. Toutes choses que l'on retrouve dans le camionnage.
Mais alors pourquoi ne pas être devenu camionneur?
Je me pose souvent la question et on me la pose souvent.
C'est vrai.
C'est la même question, puis je l'ai déjà expliqué dans d'autres contextes. J'aurais pu devenir peut-être gardien de but de la Ligue nationale de hockey. je suis devenu l'anthropologue. J'étais anthropologue. J'étais pas camionneur, j'étais anthropologue.
Oui.
Et j'ai découvert plus tard que j'avais la pulsion d'écrire. Voilà.
Et à un moment donné aussi, puisqu'on est dans les voitures et dans le kilométrage, vous parlez de cette vieille Honda qui affiche un joli score quand même, 500 000 km au compteur. Serge Bouchard. Et vous dites d'elle, ce n'est plus une voiture, c'est une voûte à idées, le coffre au trésor de toute mon imagination. Et je me disais en vous lisant, c'est exactement la même chose que me fait ce livre, c'est-à-dire vraiment un coffre au trésor, une voûte à idées. Et je partais à chaque page, à chaque paragraphe, vous nous amenez sur des choses tellement différentes les unes des autres, jamais avec élitisme, parce que de toute façon, vous détestez ça.
Oui, c'est parti pris chez moi depuis très jeune.
Oui.
L'élite ne m'intéresse guère.
Oui.
Et tout ce qui est aristocratique, élitiste, sommet, distinctif, j'ai pas été élevé là-dedans. Je viens. C'est une philosophie. Ce livre et les autres, celui qui le précédait, c'était autant les mammouths laineux.
Oui.
C'est sur le registre de ce qui est remarquable. Et dans l'ordinaire.
Alors,
je valorise beaucoup l'ordinaire. On va dire comme ça. J'aurais pu composer la chanson Je suis un gars ben
ordinaire. Oui,
je m'identifie beaucoup à ça.
Oui.
Et dans l'ordinaire se trouvent les plus grands rebondissements, se trouvent les plus belles apparitions, les plus belles lumières, les plus belles. J'ai toujours observé l'ordinaire et c'est pour ça que mes écrits vont dans toutes les directions.
Oui.
Je pense peut-être l'avoir fait, mais je pourrais faire un texte sur la vie d'un poteau de téléphone. Tu sais.
Oui. J'en suis convaincu et ça nous passionnerait.
Voilà.
Serge Bouchard, entre autres, quand vous dites que vous parlez de tout, le stade olympique, je n'aurais pas pu penser non plus que ça m'aurait autant passionné ce que vous écrivez, et pourtant, laissez-moi vous lire. Si le stade avait été construit au pied du Mont-Royal, à l'ouest de l'avenue du Parc, il aurait été un lieu de culte, écrivez-vous.
Oui.
Mais non, le stade était dans l'est, il fut notre tour Eiffel, car personne, alors ça j'adore, car personne n'a jamais voulu voir le monumental dans le monument.
Voilà.
Personne n'a vu le sacré dans la forme. C'est vraiment quelque chose que vous pensez, ça. Oui,
j'ai toujours.
Vous dites que l'homme passe comme ça à côté d'éléments qu'on lui met sous les yeux. Finalement, on ne cesse de critiquer, mais on ne voit plus rien de beau dans rien, quoi.
Ben, exactement. C'est un cas d'école, le stade olympique.
Ah,
c'est-à-dire que la pensée populaire, la pensée générale ou la pensée majoritaire a été divertie dans le domaine comptable. Il coûte très cher, il fait ceci, il fait cela.
Ouais.
En plus du fait qu'on a on n'a pas voulu, on avait toujours protesté d'avoir fait les Jeux olympiques dans l'est de Montréal, qui est un lieu où on ne devrait jamais rien faire parce que c'est le non-lieu de la ville de Montréal, là où se trouvent nos dépotoirs, là où se trouve l'industrie la plus polluante qui soit, là où se trouvent les déchets de la ville. Alors là, on avait fait jadis un jardin botanique.
Oh,
Et les gens à l'époque, l'élite avait protesté. Parce que le jardin botanique était trop loin dans l'est.
Et d'ailleurs, vous en parlez beaucoup au tout début du livre, et c'est complètement passionnant, tout le travail de Jacques Rousseau, de Marie-Victorin, tout ça, quoi.
Oui, puis ça s'inscrit dans la même idée. On fait, d'ailleurs, le parc olympique, le stade olympique est en face du jardin botanique.
Oui.
C'est à l'est de la rue Pie-Neuf.
Oui.
Et donc, c'est selon l'élite, ce sont des choses perdues, des monuments perdus, parce que à cause de leur localisation géographique. Et là, on est dans les classes sociales, évidemment.
Bien sûr.
Mais si on oubliait le coût, si on oubliait la localisation, regardez à sa face même, le stade olympique est un monument remarquable, un monument d'architecture remarquable.
Oui.
On était d'une grande injustice à l'égard de l'architecte, à l'égard du projet, etc. D'ailleurs, c'est assez curieux qu'on en parle. J'ai été invité au stade olympique récemment pour aller parler du stade olympique parce qu'on avait remarqué mon amour du stade. Et puis, j'ai rencontré et serré la pince à l'architecte Roger Taillibert.
Ah oui!
92 ans quand même. Hein, qui était présent sur place, qui était venu de Paris pour voir tout ça.
Est-ce qu'il est penché un petit peu comme son mât ou il est encore fier et digne et tout droit,
fait,
monsieur?
Tout fait, oui. J'ai failli lui dire. C'était la forme que vous aviez dans la tête.
Et, ah oui.
Tout
hein.
Mais tout ça pour dire que le stade a une très, très grande valeur architecturale. C'est une construction monumentale. Et nous ne savons pas ni en parler ni l'apprécier. Et ce serait une grande révolution que de changer de ton et de le reconnaître comme étant un acquis extraordinaire de la ville.
Est-ce que vous êtes un homme en colère, Serge Bouchard? Je fais référence, par exemple, à ce chapitre qui s'appelle « Le parti du loup », où vous dites « Je rêve du jour où un représentant du peuple, cela s'appelle un député, posera la question en pleine Assemblée nationale. Monsieur le ministre des Ressources naturelles, combien y a-t-il de loups dans la province de Québec ?» Et vous poursuivez un peu plus loin, si vous me le permettez, Serge Bouchard.
Oui. «
Nous construisons un monde, nous détruisons un monde », ce qui est la même phrase. Sans savoir combien de meutes de loups vivent dans les limites de notre belle province.
Tout à fait, je le crois. Oui, je suis un homme, de toute ma vie, je l'aurais été, pour toutes sortes de raisons d'ailleurs. Mais je suis un homme indigné.
Indigné.
Ça c'est certain. Depuis que je suis tout petit, je suis indigné pour le sort réservé, notamment aux Indiens d'Amérique, notamment aux Premières Nations, à la vie sauvage, aux animaux sauvages, à la beauté absolue de la nature. J'ai toujours considéré que nous avions la chance de vivre dans un pays, que ce soit le Canada ou le Québec, que nous avions la chance de vivre dans un pays dont l'une des plus grandes caractéristiques, ce sont les grands espaces et les grands espaces sauvages. Mmh. Et on a été négligents sur les grands espaces sauvages. On les a concédés aux compagnies forestières, on les a concédés aux minières. On n'a pas fait un bon recensement de notre patrimoine animal. On n'a pas fait un bon recensement de notre patrimoine de paysage. Oui, là-dessus, je suis indigné. Oui, c'est certain. Je suis indigné. Et souvent, je trouve qu'on démolit la beauté du monde autour de nous.
En page 206, et malheureusement notre entrevue tire à sa fin, mais je m'en voudrais de ne pas évoquer ces autres mots. L'anthropologie nous enseigne que les chiffres anciens étaient magiques, qu'il y avait un tableau des correspondances poétiques entre tous les éléments de la nature, que les arbres avaient charge symbolique, que les animaux et les étoiles se rejoignaient dans des assemblées nocturnes et que chaque geste s'inscrivait dans la démarche sacrée d'une âme en train de suivre une voie. Et je me disais en lisant ça... Mais non d'une pipe, comment ça se fait que l'anthropologie n'est pas une matière obligatoire à l'école?
Oui, c'est vrai. Non? C'est vrai, je pense que ça, oui, ça devrait, probablement. Mais voyez, vous venez de lire une déclaration solennelle du fait que j'ai été élevé, finalement j'ai été transformé, j'ai été métamorphosé par les vieux chasseurs innus, par les vieux chasseurs nomades, par j'ai été façonné par l'anthropologie que plus jeune je faisais dans le nord du Québec. Et puis, c'est effectivement le cri du cœur de la poésie universelle que je fais. On devrait enseigner l'anthropologie. Mais je dirais, finalement, on devrait enseigner dans nos écoles, dans la formation fondamentale, une certaine... cultiver chez les jeunes, cultiver le goût de la beauté, la recherche de la beauté, et puis le développement de la sensibilité.
Serge Bouchard, il ne nous reste plus qu'une petite minute. Je vais en profiter pour vous dire que vous avez la responsabilité de poursuivre votre mission encore très longtemps via les ondes radiophoniques, s'il vous plaît, et via l'écriture. Et dites donc, en 45 secondes, le camion rouge aux yeux tristes, il est devenu quoi?
Ben, comme je le dis dans le premier texte, je l'ai vendu, je l'ai bien vendu à un pompier de Montréal à la retraite qui cultive, qui en prend un soin méticuleux, et donc il a une belle vie d'artefacts devant lui. Moi, je pouvais plus l'entretenir, alors je l'ai vendu, il est tombé entre bonnes mains. Je voudrais vous souligner aussi que ce fameux camion rouge que j'ai tant aimé, qui fait un livre et qui fait la couverture du livre, le livre est actuellement en finaliste au prix du gouverneur général.
Eh bien, que c'est heureux et que j'en suis contente, et nos auditeurs aussi. Je suis convaincue que tout le monde aura été très touché d'entendre votre voix. D'ailleurs, vous écrivez sur la voix, vous qui avez tellement aimé celle de M. Doucet. Alors, on aurait eu tellement de sujets à aborder encore ensemble. Serge Bouchard, merci beaucoup pour ce que vous êtes, pour l'ensemble de votre œuvre. Merci.
Vous savez très bien que c'est moi qui vous remercie pour tout l'intérêt que vous portez.
Et je rappelle le nom du livre, Les yeux tristes de mon camion, et tous les autres qui sont tous enregistrés au SQLA, les livres de Serge Bouchard. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous embrasse, je peux?
Merci, ben oui. Et puis, je vous retourne le bec.
Merci Serge Bouchard et bonne fin de journée, au revoir.
Merci, au revoir.
Des livres plein les oreilles, la suite. Alors oui, c'est la seconde partie de cette émission. Je vais me tourner dans quelques secondes vers Rita Ezrati. Il sera question du prix Nobel de littérature 2017. Il y aura des titres en rafale. Je vous présenterai aussi les futurs invités. Mais tout d'abord, donc, Rita Ezrati. Bonjour Rita.
Bonjour Clotilde.
Rita, une artiste complète. Vous faites de la peinture, vous faites plein de choses, vous.
Oui.
Vous êtes une très bonne lectrice aussi. Vous lisez depuis quelques années maintenant déjà chez nous.
Petite dizaine.
Vous avez 11 ans.
11 ans, ouais.
Bravo, ça en fait du bouquin, ça.
Ouais. Mais je ne lis pas très vite, moi, contrairement à d'autres.
Ok.
Donc, je n'ai pas une énorme série de livres, mais quand même, ça, je prends note. De temps en temps, je constate, ouais, j'ai lu tout ça.
Oui.
Ouais.
Et puis, vous faites de la peinture.
Je fais de la peinture, ça, c'est ma deuxième profession. Ouais.
Alors, Ezrati, je vais vous le dire, Rita Ezrati, hein. E-Z-R-A-T-I, c'est très beau. Et j'ai vu que c'était au départ un problème de vue avec vos yeux qui vous a amené à faire de la peinture, Rita.
Disons que j'ai toujours barbouillé, pas très sérieusement. Je menais une autre carrière. Et puis, à un moment donné, j'ai eu un problème avec mes yeux. Je ne pouvais pas lire, je ne pouvais pas regarder la télé, je ne pouvais pas être au soleil, etc. Donc, je me suis dit, puisque je ne vois pas très bien, je vais aller peindre. Et puis, peu importe, de toute façon. Ça a déclenché quelque chose. À partir de ce moment-là, j'ai fait ça sérieusement. J'ai repris ma carrière, etc. Mais j'avais toujours ma peinture le week-end, tout le temps. Mais c'est un mal pour un bien, finalement.
Okay.
Avant, c'était comme un passe-temps. J'aimais bien barbouiller. Oui. C'est devenu une vraie passion.
Mais vous savez que j'ai appris récemment que le peintre Monet, l'impressionniste, était quasiment aveugle à la fin de sa vie. Et qu'en fait, les couleurs qu'on voit sur ses tableaux sont celles que lui pouvait voir. C'est pour ça que souvent, il n'y a pas de rouge violent, parce qu'il ne pouvait pas les voir.
C'est bien, en fait, de transformer un malheur ou un mal en quelque chose de positif. Finalement, c'est toute une philosophie.
Bien sûr. Rita, on y va avec un bouquin. Elle, elle est fantastique, Rita, parce que parfois, elle nous arrive avec un truc religieux, philosophique, tout ça. Mais alors là, pas du tout.
Non, là, je vais vous parler d'un polar suédois plutôt glauque.
Oui, on aime ça aussi.
Ouais, qui s'appelle Un cri sous la glace. Pourquoi, je ne sais pas. J'ai pas compris pourquoi. Ça, c'est vrai qu'il y a un cri tout le long du livre, un cri silencieux.
Oui.
Sous la glace, on est en Suède, c'est Stockholm, c'est l'hiver, on est dans la slush tout le temps, c'est grisâtre.
Oui.
Mais bon, peut-être que ça a du sens en suédois, je ne sais pas. Alors, dans un premier temps, ce n'était pas vraiment un coup de cœur.
Non ?
Non, si une copine l'avait passé, je ne serais peut-être pas allée jusqu'au bout.
Ah.
Mais au deuxième degré, il y a vraiment quelque chose là-dedans.
Ah,
ouais.
J'ai hâte que vous nous en parliez. Alors,
c'est un polar, parce que oui, ça commence par un crime, une femme assassinée, décapitée, la tête posée à côté d'elle, tournée vers la porte. Donc, c'est quand même assez moche. Donc, on attend une enquête normale, on s'attend à découvrir avec les policiers le pourquoi du comment. Ah ben, pas du tout. En fait, il y a plusieurs chapitres et les chapitres s'articulent, nous présentent à chaque fois un personnage, les personnages du livre. Il y a quatre personnages essentiels. Il y a Emma, qui est une fiancée secrète. Elle est fiancée au patron du grand magasin dans lequel elle travaille.
Et on ne le sait pas.
Ça ne doit pas être su. Ses copines savent qu'elle est fiancée, elle a un énorme caillou là de 4 carats, mais le fiancé doit être tu, parce que selon lui, le patron peut pas sortir avec une employée, ça se fait pas. Alors donc c'est secret. Il y a Peter qui est un policier et qui lui a des soucis aussi. Il est divorcé, il s'occupe pas tellement de son fils. On l'accuse toujours de pas prendre ses responsabilités. Il est plutôt dépressif. Et puis, il y a Hanne, une criminologue qu'on appellerait peut-être maintenant une profiler, profileuse.
Ah bon ? Ah ben d'accord, ok.
à qui on fait appel parce que ce crime ressemble à un vieux crime d'il y a 10 ans qui n'a pas été élucidé. Donc, chaque chapitre nous présente Peter, Hanne, Emma, et puis Peter, Hanne, voilà. Et par petites touches, on voit... On découvre ceci, on découvre cela. L'enquête piétine, ils ne savent rien, ils pataugent, ils n'ont aucune idée. Mais on patauge avec eux, puis petit à petit, on se fait une idée. Puis à la page 400, on s'aperçoit qu'on avait tout faux. La Camilla Grebel, l'auteur, nous a menés en bateau pendant 400 pages. Et d'un seul coup, il faut tout revoir à l'envers, parce que ce qu'on pensait... Oh. comme ça, mais alors quand elle faisait ça ou quand il faisait ça, c'était parce que... Alors ça, c'est quand même assez fort.
Ah oui, bravo. Autrement dit, pour les gens qui vont écouter ce livre, soyez bien attentifs à tout ce qu'ils font.
Oui,
quoi.
Oui.
Parce que, que c'est intéressant.
Et ce qui est aussi intéressant, c'est que chaque personnage, disons la Hanne, la criminologue, et Peter, sont aussi des personnages clés. En fait, tout ce livre, c'est un polar, mais c'est aussi une histoire d'amour. Ou de comment c'est dur d'aimer ou de désaimer. Mm-hmm. Comment c'est dur de vivre. Comment c'est dur de rompre. C'est beaucoup plus qu'un polar. En fait, l'enquête est assez secondaire.
Ah oui, hein?
Oui. Il y a un fil conducteur, mais c'est beaucoup plus poignant que ça.
Oui.
Une fois qu'on sait tout l'histoire.
Bien sûr. L'écriture, la traduction,
L'écriture est bonne, oui. La traduction est bonne, on ne s'aperçoit pas vraiment que c'est une traduction, je trouve que c'est bien. Et ce qui est intéressant, ce que je trouve touchant, c'est que Hanne, la criminologue, mm-hmm. est malade, elle a une maladie, on suppose que c'est Alzheimer, mm-hmm. Mais elle veut faire l'enquête. Mm. Et elle a un rêve, c'est d'aller voir les Inuits du Groenland.
Ouais.
Et ça revient tout le temps.
Ouais.
Parce qu'elle sait que le temps lui est compté et elle voudrait tellement y aller. Et sur ça, c'est intéressant parce que chacun a une espèce de rêve, d'envie de vie meilleure et n'y arrive pas, ou peut-être va y arriver. Et ça, c'est beaucoup plus qu'un polar.
Oui, bien sûr.
Alors c'est un peu pour ça que j'ai voulu en parler, parce que vraiment, comme polar, c'est pas terrible.
Non.
Mais il y a beaucoup plus autour.
Exactement. Eh bien, merci beaucoup, Rita. Je trouve ça fantastique. Est-ce que vous me laissez le bouquin ou faut que vous le rameniez?
Pour moi, c'est fini.
C'est fini.
Je ne sais pas s'il faut le donner à la grande bibliothèque.
Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont en faire. Est-ce qu'il était réservé?
Parce que
vous savez qu'ici.
C'est vrai qu'au début, je n'ai pas fait beaucoup de pubs parce que. Je trouvais que ça n'avançait pas comme enquête.
Eh bien, il n'est pas réservé. Non. Alors, je le détourne pour mes vacances éventuelles. Parce que, mettons que je ne manque pas de lecture. Mais ça, c'est le genre de bouquin pendant les vacances.
Sur une plage.
Ça peut être sympathique. Oui. Rita Ezrati, mes amis, étaient avec moi. Merci beaucoup, Rita.
Merci, Clotilde.
Et puis, continuez votre beau travail de peinture et continuez votre bon travail au niveau du bénévolat en lecture. C'est très gentil à vous.
Ben, je vais continuer parce que j'aime ça. Ça me fait du bien.
D'accord.
À bientôt.
À cette émission, dans la seconde partie, j'ai pris pour habitude de lire un extrait plus ou moins long du livre dont il a été question en première partie avec notre invité qui aujourd'hui était Serge Bouchard, l'anthropologue. Si à tout hasard vous l'avez raté, je vous recommande peut-être d'aller sur notre site internet sur canalm.vuesetvoies.org et vous savez que vous pouvez réentendre absolument toutes les émissions, pas seulement des livres pleins les oreilles, mais toutes celles qui sont produites ici à Canal M. Et honnêtement, elles sont toutes assez formidables. Alors, donc, n'hésitez jamais à les réentendre et vous pourrez, du coup, peut-être profiter de cette belle voix grave de Serge Bouchard, un type qui est vraiment d'un humanisme rassurant. Je dirais ça comme ça, mon Dieu, que ça fait du bien qu'on ait encore sur cette planète des gens qui s'appellent Serge Bouchard et qui sont capables de voir la beauté absolument dans tout et la poésie absolument dans tout, dans chaque brin d'herbe. J'ai envie de vous lire un extrait donc de ce livre « Les yeux tristes de mon camion ». C'est un chapitre qui s'appelle « Tout ce qui nous échappe ». Il nous écrit ceci, Serge Bouchard. Il dit « L'affaire se résume au mouvement d'avancer, pour le meilleur et pour le pire. Et bien sûr, tout au long du chemin, d'exister. L'amour constitue le plus grand des problèmes. Être est déjà difficile. Être en amour est franchement risqué. Quand il nous abandonne, cela crève le cœur. Mais quand il nous habite, il nous le crève aussi. Comment tout cela va-t-il finir? Quand allons-nous le perdre? Arriverons-nous au port? Nous restera-t-il assez de temps? En face de pareilles angoisses, on se demande toujours s'il ne serait pas préférable de s'abstenir, si nous ne serions pas mieux avisés de ne jamais aimer, de n'aimer personne et de n'être aimé de personne. Sans amour, on ne s'inquiète de rien, on évite les peines profondes, les blessures et les arrachements. Mais y a-t-il vraiment un bénéfice dans le détachement absolu ? Je crois que non, dit Serge Bouchard. La vraie liberté est affaire de solitude, et nous ne sommes pas faits pour être seuls. Peut-être ne sommes-nous pas faits pour la liberté. Car qu'on se le dise, cela n'existe pas, l'amour libre. Nous sommes des êtres si attachants, si attachés, que nous finissons par tenir à nos liens comme à la prunelle de nos yeux. Et tourne et retourne les questions, ce qui nous ramène toujours à la première, finalement, à la question d'entre les questions. Qui m'a fait monter dans ce vaisseau ? Quand et comment en descendrai-je ? Que s'est-il passé le jour avant ma venue au monde, dans l'entrepôt du non-être ? Qui m'a remarqué, m'a sélectionné ? Qui m'a dit « C'est ton tour, te voilà conçu, te voilà dans le corridor qui te conduit à l'orifice de ta naissance jusqu'au tunnel qui te conduira à l'orifice de sortie ?» Aux alentours de ma chaloupe qui prend l'eau, je perçois encore la beauté du monde. Je m'accroche aux frissons inédits. Je veux profiter de ce calme, de cette immobilité. Je souhaite m'installer dans la routine de mes maux, profitant des répits, du passage du temps, bien à l'abri dans ma loge, observant la tempête, les glaces, les canards, les pluies d'automne, appréciant mon café, le manger, l'histoire, les documents, la visite de mes amis, les bons mots, face à face avec mes propres textes, imaginant la vie, domestiquant mes peines et mes souffrances, émerveillé devant la répétition des nuits et des jours, dans les bras de ma blonde. Et puis, elle est dans les miens, ce qui est dans le sens du monde, reconnaissant et grognon, abandonné aux souvenirs de mes enfants et petits-enfants. Tout ira bien, tout ira bien. Voilà la première prière. Ce livre n'est pas prêt de quitter ma table de chevet, je peux vous le dire, même si je l'ai déjà lu. C'est le genre de livre à lire et à relire. Les yeux tristes de mon camion, Serge Bouchard. Tiens, parlons du prix Nobel, le prix Nobel de littérature qui est allé cette année à un auteur japonais. Et là, peut-être que vous vous dites « Ah oui, on devine lequel c'est » parce que tout le monde s'attendait à ce que Haruki Murakami, l'auteur d'ailleurs préféré de Michel Tremblay, remporte le Nobel de littérature. Eh bien, c'est encore raté. C'est encore raté. Alors, je me suis dit mais comment ça se fait ? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui fait qu'on devient un prix Nobel de littérature ou pas ? Et j'ai trouvé dans le Huffington Post français, on pouvait lire ceci, au sujet justement de ce grand questionnement, qu'est-ce qui fait un prix Nobel ou qu'est-ce qui ne fait pas un prix Nobel ? En 2016 pourtant, l'Académie a décidé contre toute attente de distinguer Bob Dylan. On s'en souvient, icône de la culture populaire. Mais il y a peu de chances qu'un scénario similaire se produise cette année. Selon les cercles littéraires à Stockholm, l'Académie suédoise fera un choix consensuel, classique, pour ne pas dire conservateur, après le couronnement de Dylan, qui a autant ravi que stupéfié. Ce qui s'est passé l'an dernier était vraiment particulier. Je crois que cette année, nous aurons un romancier ou un essayiste homme originaire d'Europe, exactement le contraire de Bob Dylan, pronostique Björn Wiman, directeur des pages culturelles du quotidien de référence Dagens Nyheter. C'est donc un magazine de référence en Norvège, en Suède. Oh, j'ai toujours le doute. Ah, c'est épouvantable ce que je viens de faire, mais c'est pas grave. Bon, on continue. Il se qualifie lui-même de marginal, il n'hésite pas à s'aventurer vers la science-fiction ou le fantastique, et là j'en arrive à Haruki Murakami, qui correspond à cette catégorie d'auteurs hors des clous par rapport à des auteurs plus confidentiels et ou plus exigeants. C'est d'ailleurs à ce titre que le prix remis à Patrick Modiano, plutôt apprécié du grand public, avait créé la surprise en 2014. Et à l'époque, comme l'expliquait Le Monde, les statistiques montrent que pour recevoir la récompense suprême, il vaut mieux être un homme, seulement 14 femmes ont été récompensées depuis 1901. Il vaut mieux être plutôt âgé. Les fourchettes les plus propices sont 60-64 ans et 70-74 ans. Il vaut mieux être de nationalité française ou encore mieux avoir l'anglais pour langue maternelle. Du haut de ses 68 ans, Haruki Murakami, coche plusieurs de ces cases-là et a bénéficié de traductions dans de nombreuses langues, dont l'anglais et le français, réputés pour leur qualité. S'il écrit en japonais, certains estiment que le succès international de l'écrivain nippon le plus célèbre est justement dû à son style facilement traduisible et accessible au lecteur occidental. Quoi qu'il en soit, le principal intéressé se remettra, nous dit-on, visiblement de cette nouvelle déconvenue, comme il l'explique lui-même, en assurant que ce qui lui importe, ce sont les bons lecteurs, c'est-à-dire ceux qui achètent ses livres. Alors au fait, quand je vous dis que c'est un auteur japonais qui a remporté le Nobel 2017 de littérature, il faudrait bien que je vous le nomme. Alors il s'agit de Kazuo Ichiguro, I-S-H-I-G-U-R-O, dont nous avons 3 livres disponibles en version audio via SQLA ou via Kaeb. Alors, il y a Auprès de moi toujours, de M. Ichiguro. Je ne sais pas si vous avez déjà lu Rita du Kazuo Ichiguro, mais je n'en ai jamais lu. Alors maintenant qu'il est Nobel de littérature, je vais quand même essayer de faire un effort, c'est la moindre des choses. Il a aussi écrit ce monsieur Quand nous étions orphelins. Ça, c'est un titre qui me dit quelque chose. Et puis, Un artiste du monde flottant. Quant à M. Murakami, nous en avons aussi beaucoup de ses livres. Il y a par exemple les 3 tomes de 1Q84. Alors ça, si un jour vous rencontrez Michel Tremblay, demandez-lui qu'il vous parle de 1Q84. Il peut s'étendre sur le sujet pendant des heures et des heures. Il y a également de M. Murakami, cet auteur japonais, Les attaques de la boulangerie. Au sud de la frontière, voyez-vous, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a un autre qui s'appelle À l'ouest du soleil. Et il y en a un autre qui vient d'arriver, qui s'appelle Des hommes sans femmes, et qui est son plus récent. Il paraît qu'il est vraiment de toute beauté. C'est une énorme brique, Des hommes sans femmes. Il y a aussi un livre qui avait beaucoup fait parler de lui à l'époque, c'est L'étrange bibliothèque. Si vous avez l'occasion de tomber là-dessus aussi. Murakami, ça s'écrit comme ça se prononce, M-U-R-A-K-A. M.I. Murakami. Il y en a d'autres aussi. Le passage de la nuit, ça c'est disponible via Kaeb, donc fait par l'Inca. Et il y a aussi Sommeil. Voilà. Alors, celui que l'on attendait, oui, Rita.
Il me semble que le prix Nobel, il n'a pas écrit Les vestiges du jour.
Oui, absolument. Ah, c'est ça, hein. C'est ça exactement, Les vestiges du jour.
Je crois que c'est par ça qu'on le connaît.
Et c'est par ça qu'on le connaît. Mmh. Mais savez-vous quoi? Le livre n'a jamais été enregistré.
Mais non, hein.
Alors, c'est la raison pour laquelle, finalement, je ne l'ai pas évoqué.
Ah, c'est
mais
ça.
C'est effectivement non. Celui qui a écrit... d'ailleurs, c'est Vestiges du jour. Je ne sais plus s'il y a le...
Non, c'est Vestiges du jour.
C'est ça. Vestiges du jour. Alors, ne vous ruez pas, malheureusement, sur la version audio. Elle existe peut-être, remarquez, parce que vous savez qu'il y a les versions audio adaptées, mais il y a les livres audio aussi. Mm-hmm. Hein. Et à mon avis, il y a toutes les chances pour que ce livre-là existe en version audio et certainement qu'on peut trouver ça sur Internet. Ah, on va passer à la bande-annonce pour la semaine prochaine. Oh, on tombe dans un tout autre sujet. La semaine prochaine, je vais recevoir Brigitte Harrison. Brigitte Harrison qui est l'auteur d'un livre avec Lise Saint-Charles. Brigitte Harrison est une travailleuse sociale. Brigitte Harrison est une autiste profonde qui a tellement réfléchi, travaillé sur son état d'autisme que maintenant elle travaille avec et pour les enfants autistes. Et c'est ensemble d'ailleurs qu'elles ont cofondé SACADE, S-A-D-E, qui est un centre d'expertise en autisme à Québec. Elles y dirigent une équipe multidisciplinaire qui vient en aide à des autistes de tous les âges afin de leur assurer un développement sain tout en favorisant leur bien-être. Alors, c'est un ouvrage qui propose une espèce de description vraiment unique du TSA, donc du trouble du spectre de l'autisme, en soulignant qu'un cerveau autiste est différent d'un cerveau neurotypique, qu'il est connecté autrement et qu'il ne traite pas les informations de la même manière. Alors, il est fait, ce livre-là, qui s'appelle « L'autisme expliqué aux non-autistes », il est fait de questions et de réponses, avec une explication d'une cinquantaine de notions en lien avec le développement de l'autiste. J'avais par exemple retenu pour vous cette page ici. Pourquoi la personne autiste peut-elle réagir très fortement lorsqu'elle se fait une petite égratignure sur le bras et ne pas réagir du tout lorsqu'elle a une fracture du fémur? Le mythe, c'est que les autistes sont insensibles à la douleur. Mais c'est absolument faux. L'autiste, nous dit Madame Harrison, voit l'égratignure à l'extérieur de lui qui change la configuration de sa peau. Mais il ne voit pas la fracture, qui, elle, est à l'intérieur du corps. Le cerveau n'arrive donc pas à saisir cette information et à l'amener à l'avant-plan. Voyez-vous, alors tout ce qu'on apprend dans ce livre-là, c'est absolument remarquable, c'est fouillé, c'est bien écrit, c'est plein d'anecdotes. C'est Kim Thuy d'ailleurs a participé, elle qui est la maman d'un enfant autiste non-verbal qui s'appelle Valmont. Et Madame Kim Thuy qui voue une adoration totale au travail de Brigitte Harrison et Lise Saint-Charles. Alors je vous rappelle que je reçois la semaine prochaine Brigitte Harrison. Alors, quelques nouveautés en rafale pour terminer cette émission-là. Je vais commencer par l'année où ma mère est devenue chauve. C'est Dan Speltz ou Speltz, S-P-E-L-T-Z. C'est un livre pour la jeunesse. L'année où ma mère est devenue chauve, c'est un récit raconté à travers les yeux de Claire, qui a 9 ans. Le personnage livre dans son journal intime ses préoccupations d'enfant et ses inquiétudes, évidemment, face au combat de sa mère, on l'a compris, contre le cancer. Ce livre parle du diagnostic, des traitements, des tabous et des mythes qui entourent cette maladie, mais aussi des ressources que l'on peut trouver en soi et à l'extérieur de soi. C'est une très belle histoire de ténacité et de joie insoupçonnée. L'année où ma mère est devenue chauve, Dan Speltz, S-P-E-L-T-Z. Autour d'elle, de Sophie Bienvenue, d'ailleurs, qui risque de revenir à l'émission pour nous parler de ce livre. En 1996, une adolescente de 16 ans accouche d'un garçon dans l'anonymat d'un hôpital de Montréal. Et autour d'elle, retrace 20 ans des vies de Florence Gaudreau, cette jeune femme, et de son fils biologique à travers le prisme d'une vingtaine de personnages qui ont croisé leur chemin et qui racontent chacun à leur tour leur propre histoire. Autour d'elle, de Sophie Bienvenue, c'est aussi un incontournable maintenant, disponible en audio adapté. Voici un livre qui s'apparente bien à l'univers de Serge Bouchard dont nous parlions un peu plus tôt. Celui-ci est signé Jean Bédard, Le dernier chant des premiers peuples. Monsieur Bédard qui complète ainsi sa trilogie du cycle des chants de la terre avec cette nouvelle fable sur la nature qui succède aux chants de la terre Innu et aux chants de la terre blanche. Muni de la même poésie, voyez-vous, on retrouve les thèmes chers à Serge Bouchard, la même poésie qui caractérise ses œuvres précédentes. Il retrace le voyage onirique vers le nord d'une jeune femme qui remonte le fil de sa mémoire à la recherche de l'utopie de son grand-père. Totalement différent, on y va avec Humeur d'une femme divertissante. Ça, c'est signé Lise Dion. Si après la lecture de ce livre, vous vous sentez plus intelligent, ce n'est que pure coïncidence. Que diriez-vous si en toute simplicité, l'humoriste Lise Dion vous livrait un peu de ses états d'âme? Eh bien, c'est ce qu'elle fait. Sous forme de courtes capsules, elle partage ses humeurs du moment sur le quotidien, l'amour, la remise en forme, les petits bonheurs, la sagesse, le mensonge, la rage au volant, les rêves, la vie, la maladie, pour ne nommer que cela. Humeur d'une femme mûre et divertissante. Voilà, c'est un livre qui fait sourire et qui fait du bien. J'ai invité Lise Dion à venir en studio. On se croise les doigts, on travaille fort pour ça. Et puis, c'est une de vos auteurs préférées. Ses livres s'envolent comme des petits pains. Et c'est vrai aussi en ce qui concerne les livres audio adaptés. Madame Louise Tremblay Desciambre, qui, je précise, enregistre maintenant ses propres livres. Elle vient pour les enregistrer, donc c'est sa voix que vous entendez. Eh bien, dans le cadre de cette série « L'amour au temps d'une guerre », le volume 3 est maintenant disponible via le SQLA, une série bouleversante dans laquelle se côtoient des personnages de l'inoubliable série « Les héritiers du fleuve » ainsi que des familles françaises au destin émouvant. Même si la guerre est terminée, la vie tarde à reprendre son cours, tandis que les survivants peinent à guérir leur âme écorchée. Les disparus, eux, laissent des traces indélébiles et des cœurs brisés. Voilà ce qui vous attend dans ce livre « L'amour au temps d'une guerre », volume 3 de Louise Tremblay, Décembre. Et puis je vais finir avec un livre, un polar, encore un polar, comme celui dont nous parlions tantôt avec Rita Ezrati. Celui-ci c'est un polar, mais c'est aussi un livre littérature jeunesse. Je ne veux pas oublier nos jeunes qui vont chercher aussi des livres audio adaptés. Scorpia d'Anthony Horowitz. Scorpia, S-C-O-R-P-I-A et Horowitz, H-O-R-O-W-I-T-Z. C'est dans la série Alex Rider, tome 5, Alex Rider qui est son héros. Le résumé, va à Venise, trouve Scorpia, tu connaîtras ton destin. Tels sont les mots qui hantent Alex Rider, l'espion surdoué de 14 ans depuis la fin de sa dernière mission. Cette fois, Alex est bien décidé à découvrir la vérité par lui-même. Un voyage organisé par l'école lui en offre l'opportunité et Alex commence son enquête. Mais Scorpia n'est autre que la plus grande organisation criminelle du monde et à sa tête se trouve la belle, la mystérieuse Madame Rothman. Celle-ci semble d'ailleurs très bien connaître le jeune héros. Trop bien, peut-être. Scorpia d'Anthony Horowitz. Alors voilà, ainsi se referme cette nouvelle édition de l'émission des livres plein les oreilles. Je suis très très heureuse d'avoir pu converser avec vous, avec Gérald Cousineau, avec Rita Ezrati et avec Serge Bouchard. Je voudrais remercier Maurice Bolduc qui était en studio aujourd'hui. Je voudrais vous remercier vous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter cette émission-là. Parlez-en, vous savez que le bouche à oreille c'est important. C'était Clotilde Seil qui vous souhaite bonne semaine et bonne lecture et qui vous dit à la semaine prochaine. Salut.